Vous écoutez, on lit pour vous.
L'art autochtone pourra de nouveau être étudié à l'Université du Yukon. Un texte de Radio-Canada avec les informations de Marissa Meyer, paru le 24 juin 2025 sur Ici Grand Nord. À l'automne prochain, des étudiants pourront à nouveau suivre des cours du programme de certificat en art des Premières Nations à l'Université du Yukon. Le programme, interrompu pendant 2 ans, fera son retour sur le campus Ayamdigout à Whitehorse. Les étudiants apprendront à gérer leur entreprise en combinant des cours sur l'administration des affaires et les arts visuels autochtones. Selon Stephen Biggin-Pound, directeur de l'École de la formation universitaire et professionnelle, la recherche d'un nouvel enseignant a retardé le lancement du programme après le départ en retraite de la responsable précédente, Elizabeth Bosley, en 2023. Trouver la bonne personne pour un rôle peut être difficile, alors nous avons pris notre temps. Toutefois, je pense que nous avons réussi, dit Stephen Biggin, un nouveau professeur expérimenté. Vernon Asp, artiste Taltan, est le nouvel enseignant responsable du volet artistique du certificat. Il donnera un cours portant sur la sculpture et la confection d'objets manuels. Originaire de Mayo, il a obtenu son diplôme du programme de formation des enseignants autochtones du Yukon en 2002. Il a ensuite poursuivi ses études supérieures en obtenant une maîtrise en éducation artistique à l'Université de Victoria en 2013. « J'ai décidé de m'intégrer dans ce programme parce que je suis douée pour cela. Je me passionne pour l'art dans le style de la côte nord-ouest », dit Vernon Asp. Les étudiants vont concevoir des pochoirs à la manière de l'art de la côte nord-ouest, puis les reproduire sur divers supports tels que des vêtements, des sculptures ou même des planches porte-bébés. Un programme culturel crucial. D'après M. Biggin-Pound, la décision de rétablir le certificat fait partie des mesures prises par l'université pour améliorer sa programmation culturelle. Ce programme offre une dimension universitaire pour aider les Premières Nations du Yukon à développer leur créativité artistique et à envisager une carrière dans ce domaine, déclare-t-il. Le programme propose également des cours sur le perlage, la couture, la fabrication de chaussures traditionnelles, le dessin et la sculpture, ainsi que la création d'articles artisanaux. Les apprenants doivent aussi suivre des cours d'anglais, de mathématiques et de gestion d'entreprise. Le programme est crucial car il permet aux étudiants de s'exprimer en tant qu'Autochtones et de se forger une base culturelle pour leur mode de vie, affirme M. Asp. Selon M. Biggin-Pound, l'université envisage d'étendre son programme en y intégrant divers genres artistiques. C'est une idée qu'appuie M. Asp, en particulier dans le cadre de la réalisation de projets d'envergure. Les beaux-arts exigent beaucoup de temps, souligne-t-il. Les inscriptions sont acceptées jusqu'au 16 juillet, dans la limite de 12 places. Il y aura une priorité pour les élèves des Premières Nations du Yukon. C'était « L'art autochtone pourra de nouveau être étudié à l'Université du Yukon », un texte de Radio-Canada avec les informations de Marissa Meyer, paru le 24 juin 2025 sur Ici Grand Nord.
Adrienne Anantawan porte-étendard de l'inclusion, un texte de Christophe Hosse, paru le 3 juin 2025 dans Le Devoir. Le violoniste Adrian Anantawan, né à Mississauga, formé à Toronto, puis au Curtis Institute of Music de Philadelphie, défenseur de la cause du handicap en musique, est un rayonnant élément de la tournée en Corée et au Japon de l'Orchestre du Centre national des arts, CNA. Les tournées orchestrales d'aujourd'hui ne sont plus simplement des tournées. S'écartant du simple modèle de la parade orchestrale de cité en cité, d'un ensemble réputé avec son chef, les institutions cherchent à corréler des valeurs ajoutées à leurs déplacements. Au sujet de la tournée asiatique de l'orchestre du CNA, nous avons évoqué samedi les échanges des jeunes Canadiens du programme de développement social par la musique, Orchidstra, avec leurs homologues des programmes El Sistema coréen et japonais. Un musicien s'est particulièrement distingué lors du volet coréen de la tournée. Adrian Anantawan, violoniste canadien de 43 ans, né sans main droite, en soi un vrai phénomène, puisqu'il a suivi un cursus régulier du plus haut niveau avec une maîtrise obtenue au prestigieux Curtis Institute of Music de Philadelphie. Évolution de carrière. Pourquoi n'avons-nous pas entendu davantage parler de lui? À en juger par un spectaculaire concerto de Tchaïkovski avec l'Orchestre symphonique de Toronto, documenté dans un film sur l'artiste, il y a de quoi s'étonner grandement. Adrian Anantawan, qui s'engage avec le CNA depuis son adolescence, ils sont comme une famille musicale pour moi, est devenu un défenseur de l'inclusion, comme l'illustre sa collaboration à Séoul avec le Heart to Heart Orchestra, ensemble composé de musiciens vivants avec des troubles du développement. Cela change les choses dans des communautés qui me sont chères. Des musiciens de l'orchestre du CNA se sont joints aux violonistes pour travailler avec les jeunes. Alors qu'on aurait pu imaginer voir et entendre Adrian Anantawan sur les scènes mondiales en porte-drapeau de l'inclusion, il a poursuivi son cursus universitaire à Harvard à la maîtrise en éducation. J'ai commencé à travailler dans des organismes à but non lucratif encourageant l'équité. Je voyage aussi dans ce cadre pour donner des formations. C'est ainsi que le CNA m'a contacté pour participer à des activités autour du handicap et de la pratique musicale lors de la tournée. Exprimer l'humanité. Le souriant Adrian Anantawan, qui a trouvé en Corée des organismes aux mêmes visées que les siennes, se réjouit d'être un ambassadeur. Il vit désormais à Boston. Je m'occupe d'étudiants qui ont un handicap physique ou cognitif. Je présente de la musique de chambre à des sans-abri. Il s'agit d'encourager la pratique, à visée professionnelle ou pas. Il faut que les musiciens handicapés puissent exprimer leur humanité, car ils sont régulièrement stigmatisés et incompris. Pour d'autres, il s'agit simplement, par la musique, de favoriser leur intégration à une communauté. En Corée, en marge de la tournée de l'orchestre du CNA, Adrian Anantawan s'est associé au pianiste Jaden Isaac Dzurko pour un concert présenté à l'orphelinat Son Duk-won. Il a également collaboré avec d'autres musiciens de l'orchestre pour un concert dans un orphelinat pour jeunes filles et une journée de création musicale à Art Weekend, initiative d'éducation artistique à Séoul. La voix d'Adrian Anantawan semble désormais être celle de l'éducation et de l'inclusion. Il est tentant de lui demander s'il ne regrette pas son choix de carrière. J'aime jouer des concertos et des récitals, mais j'ai toujours su que mon parcours serait différent, puisque j'avais la possibilité d'utiliser mon unicité pour influencer le monde d'une manière spécifique. J'ai toujours su qu'être un militant des possibles me permettrait d'influencer une génération plus jeune pour qu'elle ait moins de préjugés. À côté de ma maîtrise à Harvard, j'ai étudié comment les technologies pouvaient améliorer l'enseignement auprès de personnes handicapées. Je mène un programme de type El Sistema à Boston. j'offre un programme parascolaire pour aider les enfants handicapés et nous avons un ensemble de musiciens handicapés au Berklee College. Si l'Orchestre symphonique de Montréal m'appelait pour jouer le concerto de Mendelssohn, je répondrais oui, évidemment. Mais le concert devrait s'accompagner d'une activité liée au handicap et favorisant le partage musical. C'était Adriane Anantawan, porte-étendard de l'inclusion, un texte de Christophe Hoss paru le 3 juin 2025 dans Le Devoir.
Vivre et enseigner la francophonie dans les communautés. Un texte de Gwendoline Lebeaumin, paru le 3 juillet 2025 dans l'Aurore boréale. Au Yukon, la francophonie rayonne bien au-delà de Whitehorse. Dans les écoles situées dans les communautés du territoire, plusieurs enseignants et enseignantes francophones partagent leur langue et leur culture avec passion. De quelle manière la francophonie est-elle transmise dans des contextes souvent anglophones et isolés? Une mission enrichissante qui apporte également des défis. Fraîchement diplômé, Hugo Turpin débarque en août dernier à Dawson pour une première année en enseignement. Au programme Confluence, il enseigne en troisième, quatrième et cinquième année. « C'est un programme français langue première », explique-t-il. « Donc, j'enseigne toute la matière en français et le français langue première. Mais ce n'est pas la réalité que je vis avec mes élèves, puisque c'est un nouveau programme », nuance-t-il. Ce sont des élèves qui sont allés à l'école anglophone avant de venir à l'école francophone, explique-t-il. Leurs parents parlent le français, mais les élèves n'ont pas énormément appris la langue. Ma réalité en tant qu'enseignant est donc unique et ça rend l'expérience encore plus palpitante. Partager et transmettre sa passion du français. Originaire du Québec, Hugo Turpin partage au quotidien sa culture d'origine à ses élèves. Par exemple, aujourd'hui, on a joué à la chaise musicale avec les Cowboys fringants. J'aime beaucoup aussi amener mon accent québécois dans mon enseignement parce que je pense que mon identité francophone ne s'identifie pas juste au français, mais au Québec aussi. Et puis, j'essaie de faire des activités qui entourent également ma culture. Yannick Pavard, français d'origine, est moniteur de français au sein du programme Odyssée à l'école Robert Service à Dawson. Il trouve que ses élèves font preuve d'une belle curiosité culturelle. Ils sont toujours en train de poser des questions sur des faits culturels ou des expressions, notamment sur ce qu'on dit aux portes lors de l'Halloween ou comment se passe la célébration de la galette des rois. Un de mes élèves a regardé The Office, la série sur Netflix en français, et à un moment donné, dans la série, l'acteur dit « Je m'en fiche ». Mon élève m'a demandé ce que signifiait cette expression. Les élèves veulent m'entendre la dire. Ils demandent dans quel contexte on dit « je m'en fiche ». Louane Batour, originaire de l'île Maurice, est aide enseignante à l'école Tantalus à Carmax. Elle rapporte qu'il est plus difficile de transmettre sa culture francophone puisqu'aucun élève ne parle le français et que l'école ne souhaite pas enseigner le français. Des cours de Tochon du Nord sont offerts à l'école. Elle aimerait transmettre sa langue en dehors du cadre scolaire. Elle enseigne pour l'instant des cours de français à un enfant, en dehors de l'école, en tutorat. Une façon différente pour elle de transmettre sa langue. Défis dans les communautés. Finalement, les enfants ne parlent pas tant français, constate Hugo Turpin. Mon défi principal, c'est de les encourager à parler en français entre eux. C'est un défi que je vis quotidiennement. Mais de jour en jour, on voit de grandes améliorations. J'éprouve une certaine gratitude quand je vois le jeune qui me parle un peu en français. « Je dois vraiment me réinventer », ajoute-t-il. « J'utilisais beaucoup les outils technologiques au Québec. Plusieurs façons de faire que j'avais ne s'appliquent pas nécessairement ici. » Pour Yannick Pavard, il n'y a pas assez d'endroits où les élèves peuvent pratiquer le français en tant que tel à Dawson. Quand ils rentrent chez eux, ils ne parlent pas forcément français. À un moment donné, on voulait effectuer des exercices, on voulait aller à l'épicerie, mais personne ne parle le français. Donc, on est allé au centre des visiteurs parce que là, ils ont des chances de trouver des personnes francophones. Mais les jeunes sont à la recherche d'endroits pour pratiquer. Le français au quotidien. Chacun et chacune vit sa francophonie à sa manière. Je pense que c'est en côtoyant les gens de Dawson, en côtoyant d'autres francophones, que mon identité francophone s'est renforcée, que je tiens plus à ma langue, estime Hugo Turpin. Presque la moitié de mes amis à Dawson parlent français et anglais. Ça fait en sorte qu'on peut parler en français une fois de temps en temps. Mais c'est sûr que quand il y a un anglophone qui rentre dans la conversation, on se met à parler tout le monde en anglais pour inclure la personne. J'ai la chance de continuer à garder contact avec ma famille et mes amis du Québec. Ça fait que j'utilise beaucoup mon français. C'est drôle, avant, j'écoutais tout le temps des films en anglais. Tous les services que j'utilisais, c'était en anglais. Mais là, aujourd'hui, c'est le contraire. Maintenant, chez moi, tout est en français parce que je tiens à garder ma langue, je tiens à la protéger. Pour Yannick Pavard, l'utilisation du français au quotidien reste importante. Je ne connais pas bien l'anglais, donc je recherche un peu plus les francophones. Louane Batour parle français tous les jours à la maison et avec d'autres francophones du village depuis son arrivée en 2023. Mon identité francophone est importante, partage-t-elle. En arrivant à CarMax, je travaillais dans le store du village. Je profitais de parler français aux touristes francophones. Quand je vais avoir des enfants un jour, je voudrais que mes enfants aient ce français-là, parce que c'est important pour moi, c'est ma vie, partage-t-elle. Marie Bélanger a enseigné entre 2013 et 2016 à l'école de Ross River. Elle rapporte ne pas avoir beaucoup parlé français durant cette période, même si d'autres francophones vivaient également dans cette communauté. On parlait en anglais la plupart du temps. Quand on était juste les trois francophones ensemble, on se parlait en français. Mais c'est tout. Quand quelqu'un d'autre entrait dans la pièce, par politesse, on se mettait à parler en anglais. Quant à Julia Checky, originaire de Vancouver et enseignante de la langue Han à l'école Robert Service de Dawson depuis 2022, elle mentionne avoir plusieurs amis francophones avec qui elle partage différentes activités, comme le disque golf. Langue française, langues autochtones. Selon Hugo Turpin, on peut faire un parallèle entre l'enseignement des langues autochtones et le français, parce que ces deux langues sont minoritaires. Ce sont un peu des trésors. Pour Julia Checky, le français et le Han sont un peu différents, car le Han est en voie d'extinction, contrairement au français. L'année passée, notre dernier aîné parlant le Han est décédé. 5 personnes seulement le parlent en Alaska. Par contre, il y a une grande communauté francophone dans le monde. On peut néanmoins dire que les deux langues s'appuient sur une approche pédagogique similaire, l'approche neurolinguistique, qui met l'accent sur l'importance de l'immersion orale, explique l'enseignante. Marie Bélanger a eu l'occasion d'enseigner le français lorsqu'elle travaillait à Ross River, mais elle l'a refusé, préférant que les élèves apprennent le Kaska, la langue de la Première Nation de la région. Seulement une 20aine de personnes parlent le Kaska, alors je trouvais plus important que tous les enfants aient accès à des cours de Kaska. Je préférais qu'ils apprennent leur propre langue plutôt que la mienne. C'était « Vivre et enseigner la francophonie dans les communautés », un texte de Gwendoline Lebeaumain, paru le 3 juillet 2025 dans l'Aurore boréale.
Le vase dans le caniveau ou variation sur le roman noir. Une chronique de Norbert Spehener, paru le 21 octobre 2024 dans les libraires. Qu'est-ce qu'un roman noir? Entre les deux guerres mondiales, à l'époque de la Grande Dépression et de la Prohibition, un nouveau type de récit policier fait son apparition aux États-Unis. Il se caractérise par son réalisme et sa peinture sans concession des milieux de la pègre, des gangsters et de la criminalité urbaine. Dashiell Hammett, Raymond Chandler et autres adeptes de ce sous-genre du polar inventent un nouveau type d'anti-héros. Le détective hard-boiled, dur à cuire, désabusé et sarcastique, fauché, alcoolique, aux méthodes agressives et peu orthodoxes. Baptisé roman noir par les critiques, cette catégorie s'épanouit dans les pages des pulps, soit des revues à bon marché comme Black Mask, et surtout dans les formats de poche paperbacks, qui, pour la première fois, permettent une grande diffusion de ce genre de plus en plus populaire. En France, dès 1945, le roman noir connaît aussi son heure de gloire avec Albert Simonin, José Giovanni, Léo Mallet, Jean Amila ou Georges Simenon, ce dernier étant le grand spécialiste des polars psychologiques et d'atmosphère. Pur produit de l'esprit révolutionnaire et anarchiste de mai 68, le néo-polar français donne ensuite un second souffle à ses œuvres avec Jean-Patrick Manchette, Jean Vautrin et Didier Denincnik, dans les années 1970. Dans une étude intitulée « Le roman noir, une histoire française », Presse universitaire de France, Natacha Levette écrit que ce genre est un sale gosse qui casse les règles, se gausse de la bienséance et se vautre dans le caniveau. Elle fait ainsi écho à une citation célèbre de Raymond Chandler dans son essai « Le simple art du crime », où il affirme que son collègue Dashiell Hammett, un ténor du genre, a sorti le crime de son vase vénitien et l'a flanqué dans le ruisseau. Car, contrairement aux environnements bourgeois, hôtels, manoirs, trains de luxe, bateaux de croisière, etc., du roman à énigmes classiques, le roman noir privilégie les quartiers malfamés et les bas-fonds, où la criminalité est endémique. Violence, misère et cruauté. La littérature entre alors dans l'univers du sordide. Stéphanie Duloup, le roman policier, Milan, 1995. Une des caractéristiques les plus importantes de ce sous-genre du polar, c'est le choix des personnages principaux, car dans cet univers romanesque plutôt ignoble, le monde est vu à travers les yeux des délinquants. Les enquêteurs futés, amateurs d'énigmes criminelles, cèdent leur place aux malfaiteurs, voleurs, assassins, tueurs en série, escrocs divers ou détectives privés d'une nouvelle posture qui agissent le plus souvent dans l'illégalité la plus totale. Dans les ruelles obscures des villes, les bouges des quartiers malfamés, ils traquent des gangsters, des hommes d'affaires corrompus, des aventurières ou des arnaqueurs sans scrupules. Dans Le Parieur, dont l'action se situe en Californie en 1949, David Baldacci rend hommage à ses classiques de l'âge d'or des romans noirs américains des années 1950 en mettant en scène le privé Aloysius Archer. Détective futé s'il en est, Archer est un dur à cuire au cœur tendre, personnage emblématique du noir avec des traits de caractère, des qualités et des défauts que l'on retrouve chez les Philip Marlowe, Sam Spade, Mike Hammer et autres Lou Archer de l'époque. Engagé comme enquêteur par Willie Dash, un ancien agent du FBI, il doit trouver les responsables des menaces que reçoit Douglas Camper, riche politicien local, candidat aux élections municipales dans une ville contrôlée par son beau-père, Sire Armstrong, homme d'affaires richissime et chef de gang. L'affaire est potentiellement explosive et prend une tournure sinistre. Les cadavres se multiplient alors qu'Archer et Dash se retrouvent au cœur d'un scandale qui va ébranler la communauté. Cette intrigue est ponctuée de scènes d'action violentes, dont une fusillade mémorable à la mitraillette Thompson, ainsi que les inévitables bagarres entre le privé et les voyous croisés au cours de l'enquête. Autre personnage qui a franchi la ligne rouge de la légalité, Riley Wolfe, est le protagoniste et le narrateur de Riley s'attaque au Vatican, de Jeff Lindsay, le créateur de Dexter. Wolfe est un grand amateur d'art et un voleur professionnel, le meilleur du monde. C'est une sorte de mélange contemporain d'Arsène Lupin, de Fantômas et de Thomas Crown. Personnage d'un acabit que l'on aime haïr, ce psychopathe n'hésite pas à tuer. Par exemple, quand un de ses complices a la mauvaise idée de vouloir le doubler, il l'empale, nu, sur la lance d'une statue située sur une place publique. Séduisant, impertinent et cynique, Riley est aussi un amateur d'humour noir, ce qui se reflète dans le style, le niveau de langue familier et le ton léger d'une narration ponctuée de métaphores colorées et de remarques cyniques ironiques. Patrick Boniface, un puissant trafiquant d'armes et grand collectionneur d'art, exige de Riley de lui procurer la délivrance de Saint-Pierre, une fresque peinte par Raphaël sur un mur du Vatican. En cas de refus ou d'échec, Riley sera livré au sévice, euphémisme, de sa garde du corps, la terrifiante Bernadette, une sadique de la pire espèce qui lui casse un doigt en guise de préliminaire. Boniface menace aussi de s'en prendre à sa complice Monique et à sa mère. Mais voler une fresque au Vatican? Tout un défi. L'intrigue, riche en surprises, sera des plus mouvementées. Quoique enclin à dépeindre des univers sombres et tourmentés, certains écrivains n'hésitent pas à temporiser la dureté de l'histoire en lui injectant une bonne dose d'humour noir. Dans Le Fugitif, Le Flic et Bill Ballantyne, l'auteur québécois Éric Forbes met en scène Étienne Chénier, un libraire de Montréal, recherché pour meurtre. En cavale à Paris, il est à la fois traqué par sa némésis, le flic obèse Denis Leblanc, et une meute de voyous parisiens à la solde de Catherine Desbiens, la fille d'un chef de la mafia montréalaise dont le mari a été tué par Chénier. S'ensuit une folle équipée dans les rues de la capitale française, ponctuée de fusillades et parsemées de cadavres. Car Chénier et Leblanc, assistés d'un gamin débrouillard surgi de nulle part, sont obligés d'unir leurs forces s'ils veulent échapper à leurs poursuivants. Ce livre, haletant, au rythme infernal, présente quelques épisodes burlesques, avec des dialogues savoureux et un langage fleuri, le tout alimenté par le regard acide et comique que jette l'auteur sur la vie parisienne et sa faune des plus pittoresques. Cet exemple de roman noir, agrémenté de boutades, n'est pas sans rappeler certaines œuvres d'André Marois, de Donald Westlake ou de Joe R. Lansdale, grands amateurs de noir humoristique, où le ton alterne entre le rire et le suspense, la brutalité et le comique, le tout savamment dosé. Que du bonheur! C'était « Le vase dans le caniveau » ou « Variation sur le roman noir », une chronique de Norbert Steffner, parue le 21 octobre 2024 dans les libraires.